Nous devons exclure le méchant du milieu de nous. Bonjour, chers frères et sœurs. Ça me fait plaisir ce matin de d'avoir préparé ce message en tout cas, et ça me fait plaisir aussi de vous le partager. Alors j'espère que ma phrase d'accroche vous a accroché, hein, c'était le but. On va parler d'un sujet ce matin qui n'est pas forcément simple à aborder. On va parler de discipline d'église. Et honnêtement, si ça n'avait pas été la suite de notre lettre aux Corinthiens qu'on a commencé depuis septembre, je suis pas sûr que c'est ce chapitre-là que j'aurais choisi de parler devant vous ce matin. Mais c'est avec beaucoup de joie parce que je pense que Dieu, il va aussi nous parler à travers ce sujet. On a encore beaucoup de choses aussi à réfléchir sur cette question. Et sans plus attendre, je vous propose de continuer la lecture de notre texte. Donc, 1 Corinthiens 5. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de retrouver votre petit livret. Ça fait un petit moment qu'on l'avait mis de côté. Je lirai tout le chapitre. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais déjà présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour de Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens du monde, de ce monde, qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Seigneur, je te prie que tu puisses encore, c'est vrai, toucher nos cœurs ce matin pour qu'on soit à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Tu vois que c'est un passage fort, Seigneur, et je te prie de placer les bons mots aussi dans la bouche pour que, dans toute occasion, Seigneur, comme tu nous le demandes, on soit avant tout guidé par l'amour, Seigneur, l'amour du prochain, et que ouais, l'amour puisse encore rejaillir dans ton église de Vitam, Seigneur, ce matin. Amen. Alors, en guise d'introduction, ce que je voulais nous inviter à réfléchir, c'est de nous demander, est-ce que vraiment on a besoin ce matin de parler de discipline d'église? Est-ce qu'on pouvait pas tout simplement se dire, bon, ok, on ferait une lecture suivie des chapitres, mais on saute le chapitre 5, on passe au chapitre 6, la discipline d'église, c'est pas pour nous, on est une bonne église, fidèle à Dieu. Et je vous invite à réfléchir à cette question à travers l'exemple que Paul nous laisse à travers cette lettre aux Corinthiens. L'église de Corinthe a été fondée par Paul, quand même un apôtre, on va pas dire un super apôtre, parce que ça n'existe pas vraiment, mais quand même un apôtre assez important. Il y est resté pendant 18 mois pour la fonder. Il a pris le temps de parler de la doctrine, de parler de l'évangile. Malgré cela, il écrit déjà une seconde lettre. Alors, la lettre qu'on est en train de lire, c'est sans doute une deuxième, peut-être même une troisième lettre que Paul écrit à cette église. On lit au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. » Il les avait déjà prévenus, il les avait déjà mis en garde face à ce risque de personnes qui, rentrant dans l'église et pourtant ne faisant pas partie de l'église, continuaient à vivre dans le péché. Malgré tout cela, il est obligé de continuer à les reprendre. Si une église pareille, qui a été fondée par Paul, qui a eu le temps de mettre en place les bonnes doctrines, l'évangile, a été touchée par cette question de la discipline d'église, je pense qu'il est nécessaire qu'on ne se croie pas suffisamment debout pour croire que c'est pas un sujet qui va nous toucher nous aujourd'hui. C'est certain. C'est une des raisons clés qui fait que nous aussi, sans doute, on sera touchés. On a l'exemple avec l'église de Corinthe. En plus, alors, c'est un sujet spécifique de l'église de Corinthe, l'immoralité sexuelle. On le sait, on l'a vu dès le début de la lettre, et on va le voir tout particulièrement durant les prochains chapitres. C'est pas les seuls péchés contre lesquels il faut lutter, on le verra aussi dans le message que je vais vous partager ce matin. Mais quand on regarde le monde actuel, est-ce que vraiment le monde continue à suivre la moralité que Dieu nous enseigne dans sa parole d'un point de vue sexuel? Bien au contraire, je pense que si c'est un des défis de notre temps, et c'est pas le seul, c'est bien sur la question de l'immoralité sexuelle, et ça va pas aller mieux avec les années à venir. Donc vraiment, ce questionnement de la discipline d'église aujourd'hui, il est essentiel, alors essentiel, c'est pas les seuls sujets dont on a pu traiter, mais en tout cas c'est bien qu'on prenne le temps ce matin de traiter ce sujet, parce qu'en plus, il vaut mieux prendre le temps d'en discuter calmement, avant, on va dire, que se retrouver, comme parfois on se retrouve, dans des sujets qu'on n'avait pas bien anticipés, qu'on n'avait pas discutés, qu'on savait pas forcément ce que nous on devait penser en tant qu'église, et qu'on se retrouve face à des sujets difficiles, qui risqueraient de créer en tout cas des ruptures dans l'Église. Et si Paul, il nous invite justement à réfléchir à cette question, c'est justement toujours dans cette idée de l'unité de l'Église. Sans plus tarder, je vais arrêter là pour mon introduction, et je vous propose de rentrer plus clairement dans l'étude de notre texte. Alors, je vous propose une étude en deux parties. Une première grande partie que j'ai intitulée « Une discipline d'Église pour », avec une première sous-partie. Désolé, des formations professionnelles, faut que tout soit organisé. Une discipline d'église pour le témoignage à tous. Dès le verset 1, Paul nous dit « On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle. » Je me suis mis à la place de celui qui devait lire la lettre à l'église de Corinthe. Déjà qu'il n'était pas forcément tendre dans les premiers chapitres, mais alors là, clairement, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il est en train de leur dire « S'il y a une chose qu'on retient de vous, si on entend parler de vous, c'est à cause de votre immoralité. » C'est fort quand même. Dans d'autres traductions, cette traduction Sommer, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité. On entend parler constamment d'inconduite, selon la traduction Colombe. Le témoignage de l'Église, c'est un élément essentiel, on le sait. On a, dans notre vie, sans doute eu l'occasion de parler avec l'un ou l'autre, d'essayer de parler de l'Évangile, et en face, la personne qui nous dit « Ah mais, moi j'ai connu telle personne. » Si le témoignage n'est pas bon, si la seule chose qu'on retient de l'Église, c'est le fait qu'elle vive comme les païens, c'est très difficile, on le sait, de partager ensuite l'Évangile. Alors c'est vrai pour le témoignage extérieur de l'Église, quand on veut essayer de témoigner, mais aussi c'est vrai pour le témoignage intérieur. Hein. Une personne nouvellement convertie qui rentre dans l'Église, qui a la joie d'avoir découvert Christ et qui se rend compte que dans l'Église, il y a des personnes qui vivent n'importe comment. Là encore, le témoignage. C'est une question essentielle qu'on ne peut pas laisser de côté. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle il est important de respecter aussi et de mettre en place une discipline dans l'Église. Une discipline d'Église pour le salut de la personne elle-même. Comme Paul nous lit au verset 5, « Livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Alors là, il faut que je fasse une petite parenthèse parce que pas envie de dire des bêtises, c'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma qui, j'espère, sera suffisamment explicite et clair. Là où nous étions, c'est là en bas. Pécheur et condamné. Condamné à vivre très très loin de notre Dieu. Et tout ça depuis Adam, on le sait, on l'a déjà dit des centaines, des milliers de fois. Notre séparation de Dieu, à cause de notre faute, à cause de notre péché, elle était censée être éternelle. On n'avait aucun moyen. On essayait, parfois, de se créer un petit chemin, comme ça, qui, par notre auto-justification, par nos œuvres, qu'on essayait de nous justifier nous-mêmes en disant « Ah, j'ai quand même réussi à faire ça, j'ai quand même réussi à... » Mais un chemin d'auto-justification, ça mène nulle part. Heureusement pour nous, on a la grâce. Un chemin de salut offert par Christ, qui est totalement offert et gratuit, sans mérite nécessaire, grâce à Christ, qui est venu, qui est mort sur la croix, et qui a aussi fait ce que nous n'arriverons pas à faire dans notre vie, c'est une obéissance parfaite. on oublie parfois de le dire, mais j'aime bien le re-mentionner ce matin tout particulièrement. Christ a été sans péché toute sa vie. Et c'est par son obéissance parfaite, par le fait qu'on accepte Christ dans notre vie, qu'on a cette occasion de pouvoir passer de la mort à la vie, de notre statut de pécheur condamné à saint et racheté. Et on le voit, alors mon schéma, il n'est pas canonique, mais quand même, il est bien fait. C'est une flèche à sens unique, n'est-ce pas? Une fois qu'on a accepté Christ dans notre cœur, une fois qu'on a été libéré par Christ, par son salut offert par grâce, il n'y a pas de retour en arrière possible. On sait qu'on est libéré, on sait tous, on a cette joie ce matin de se dire que le jour du jugement, on sera déclaré saint par Dieu, par le salut de Christ. Mais là, on vient se questionner, mais pourquoi est-ce que on devrait faire de la discipline d'église? Pourquoi est-ce qu'on devrait juger cette personne alors si elle vit de manière pas selon la loi, puisqu'on vient de dire que tout était que par grâce, qu'on n'avait rien besoin de faire? Et bien tout simplement parce que si cette personne, elle continue à vivre, et c'est ce que Paul nous dit au verset 11, hein, une personne qui vit dans l'immoralité, une personne qui est toujours éloignée de Dieu, toujours dans prendre plaisir dans son propre péché, ça doit nous mettre en garde sur le fait que cette personne, elle a peut-être pas compris le message de Christ. Elle a peut-être pas accepté Christ dans sa vie. Et pour ça, c'est essentiel qu'on réagisse. Alors, bien sûr, dans un premier temps, discuter avec cette personne, voir, comme d'autres passages nous le disent, hein, prendre son frère seul à seul, etc., etc. J'ai pas l'occasion de tout rediscuter ce matin, mais il est sûr que l'exclusion de l'église, ça doit être une étape, on va dire, dernière, mais qui est cependant tout à fait nécessaire pour le salut de la personne. Parce que si on l'accepte dans l'église, alors que la personne n'a pas compris Christ, c'est lui faire croire qu'un jour, elle sera comme nous, acceptée par Dieu, alors que c'est pas le cas. Et ça, c'est triste, c'est grave, c'est important qu'on le prenne en compte. En sortant la personne de l'église, j'aime bien comment Paul le dit, livrer un tel homme à Satan. Quand on sort de l'église, on aurait pu dire, ah bah, il va rejoindre le monde. Non, non, Paul il nous dit, la personne, elle est livrée à Satan. L'église, c'est un rempart. C'est un élément protecteur pour nous. C'est une occasion qu'on a de pouvoir se tenir ensemble face au monde et face à Satan. Et Paul nous le dit clairement que quand on s'éloigne de l'église, en fait, on se retrouve un peu tout seul. Plus ou moins désarmé face au monde et face à Satan. Et c'est pour ça qu'on est parfois tellement triste quand il y a des personnes qui ont fait partie de notre église et qui, pour différentes raisons, la quittent. Parfois pour quelques dimanches, parfois pour malheureusement plus. Ça nous rend triste parce qu'on sait que cette personne, elle va se retrouver avec des défis, elle va se retrouver face à des combats, sans avoir ce rempart, ce protecteur qu'est l'Église, l'épouse du Christ. Ouais. C'est important pour nous, donc, de faire de la discipline d'Église pour le salut de cette personne. Alors, le fameux titre que j'ai mis en haut de mon PowerPoint, hein, « Nous devons exclure le méchant du milieu de nous », c'était une phrase d'accroche en introduction, mais vous allez voir que petit à petit, et j'ai déjà commencé à le faire, on va ensemble, j'espère, se rendre compte que c'est pas la seule chose que Paul nous invite à voir ce matin dans son passage. Il y a quelque chose de plus. D'accord, d'un côté, il faut faire de la discipline d'église, il va falloir peut-être exclure des personnes parfois de notre église. Mais ça suffit pas. Il y a une autre face, un autre élément important qu'il va falloir faire aussi, et on va le découvrir petit à petit au cours et à mesure du message, je l'espère. En tout cas, j'y reviendrai. Un dernier point pour cette première partie, une discipline d'église pour l'obéissance à Dieu. Alors je l'ai mis en dernier parce que si je l'avais mis en premier, en fait c'est un point qui aurait suffi. Parfois on se dit, ah, on va faire ça parce que ça va permettre ça, ou ça va permettre ça, ou la Bible nous dit ci pour ça. Mais en fait, à partir du moment où Dieu nous dit, il faut faire ça, rien que ça, ça devrait suffire. Si Dieu nous dit, il faut obéir, alors c'est sûr que je suis bien content ce matin d'avoir, on va dire, des arguments de pourquoi est-ce qu'on est censé faire de la discipline d'église. Mais à partir du moment où Dieu nous le dit, on devrait déjà y obéir. Et là, il nous le dit en plus d'une manière toute particulière dans les versets 6 à 8. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je trouve ça très fort de la part de Paul de créer ce lien entre la Pâque et l'exclusion du méchant du milieu de nous. Il va montrer que, en faisant un parallèle avec la Pâque, à la fois la première Pâque en Moïse, mais aussi la deuxième Pâque mise en place en Christ, que c'est nécessaire d'exclure le peuple. Et pour peut-être mieux voir les liens, je vous propose de revenir à cette première Pâque en Deutéronome 12. Donc, vous le savez, les fameuses plaies d'Égypte de Moïse, on arrive à la dernière, le jugement des premiers-nés, avec ce fameux sang qu'il va falloir badigeonner autour des portes pour les Israélites, pour être protégés de ce jugement. Et je prendrai la lecture à partir du verset 12. « Je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang, le fameux sang de l'agneau qu'il fallait badigeonner sur le pourtour des portes, servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête, en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. » Moi, j'ai trouvé ça super fort que Dieu, dès Moïse, il y a plusieurs millénaires, avait imagé cette notion de pain sans levain pour son Église qui arrivera bien plus tard. Et alors, difficile de faire le lien avec tous les parallèles qu'on pourrait faire dans ces deux passages. J'en ai cité quelques-uns dans le tableau qui est derrière moi, je ne sais pas si ça se voit bien. Bon, je voudrais juste nous concentrer sur la fin du tableau, avec les signes qui ont été mis en place. Le fait que le peuple devait être sans levain. Alors à l'époque, c'était un levain matériel qu'il fallait enlever des pains, enfin, en tout cas mettre les pains de côté qui étaient avec du levain. Pour nous aujourd'hui, c'est le levain spirituel, le péché, qui doit être retiré du milieu de nous. Et si une personne ne respecte pas cela au point de montrer que elle ne fait pas partie du peuple de Dieu, il y a la nécessité de l'exclusion dans les deux cas. C'est des passages forts, je le sais, hein, c'est pas forcément simple à en parler ce matin, mais vraiment, j'ai trouvé essentiel le fait que Paul replace l'exclusion du peuple, le fait que on doit travailler sur cette histoire de levain. Pourquoi ? Pour, comme signe du sang versé par l'agneau. C'est dans le déroulé logique, dans la suite d'une conversion. Normalement, on devrait être sans levain. C'est ce que Paul nous invite à faire. Je vous le disais avant, hein, une première grande partie avec le méchant qui doit être écarté de nous, mais aussi quelque chose de plus à faire dans l'Église, l'exclusion du levain du milieu de nous. Allez, j'attaque une deuxième grande partie, un peu plus pratique, je sais pas. Une discipline d'Église par Christ. Et ça, bien sûr, c'est essentiel. C'est pas nous, c'est pas individuellement petit Steven, petit je sais pas qui va faire la discipline d'Église. Si on est invité à faire la discipline d'Église, c'est par Christ. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, c'est souvent une phrase qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament, qui est une autre formulation pour le jour du jugement dernier. Mais souvent, enfin, en tout cas dans l'Ancien Testament, on retrouvera juste le jour du Seigneur. Là, Paul, il nous rajoute le jour du Seigneur Jésus parce que, en tant que Dieu, c'est aussi lui qui sera notre juge à la fin des temps. Ce que Paul nous invite à faire, il le dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour éviter d'être jugé par Christ à la fin des temps. C'est de, aujourd'hui, faire une discipline d'Église, toujours au nom de Christ, par Christ, pour que la personne elle puisse avoir l'occasion de quitter l'Église, mais peut-être d'y retourner aussi. Parce que c'est ça, l'objectif de Dieu, c'est que le pécheur se repente et vive. C'est ça qui est essentiel à comprendre. C'est que, en fait, on va avoir l'occasion de faire une sorte de préjugement qui, vaut un peu ce qu'il vaut, mais qui permettra peut-être d'éviter à la personne de passer devant le jugement final de Christ. Une discipline d'Église qui doit aussi se faire par l'Assemblée. Alors là, si vous étiez jusque là à me dire, le message de Steven, il est un peu fort ce matin, mais heureusement, ça c'est le job des anciens, ça ne nous concerne pas. C'est pas tout à fait ce que Paul nous dit ce matin. Quand vous vous rassemblerez, c'est le travail de toute l'assemblée. C'est pas juste d'une minorité, bien sûr celle des anciens, mais c'est aussi une responsabilité qui pèse sur chacun. La preuve avec le verset 11, de ne pas même manger avec un tel homme. S'il y a que la moitié de l'église qui décide de mettre une personne de côté et que l'autre moitié continue à faire comme si de rien n'était avec cette personne, la discipline d'église, elle sert pas à grand chose, hein. C'est une réflexion communautaire. C'est en tant que unité, en tant que peuple de Dieu, que Christ nous invite à réaliser la discipline d'église. Moi, j'ai fait le lien avec ce passage d'Ézéchiel, où Dieu parlant à Ézéchiel, en chapitre 3, verset 18-19, « Quand je dirai aux méchants, » donc c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, hein, « tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il renonce, et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais tu auras délivré ton âme. » Alors là, il y a deux pièges dans lesquels il faut pas tomber. Manquer de zèle, oublier que, ben voilà, c'est une responsabilité de l'assemblée, une responsabilité de chacun aussi d'avertir nos frères et sœurs qui sont face à des péchés. L'autre erreur qu'il faut pas tomber, hein, l'effet inverse, c'est d'en profiter pour dire, ah ben, cette personne, heureusement qu'elle a mis de côté de l'église, hein, parce que, elle m'a fait tellement de mal, elle a fait ci, elle a fait ça. Ouais. Comme parfois on peut vite retomber dans l'effet inverse et oublier qu'en fait, tout n'est que grâce. Si nous on a ce privilège d'être encore dans l'église, c'est bien par la grâce de Dieu et c'est pas aucunement par nos propres forces, par nos propres moyens. Et ça doit sans doute pas être un sujet de fierté que de mettre des personnes en dehors de notre église. Au contraire, le levain qui est encore dans notre église a de nombreux passages et dans notre passage, Paul le dit, hein, vous aurez dû prendre le deuil. On doit toujours être attristé du péché qui vit dans l'Église. Toujours être attristé que bah, s'il y a une exclusion ou s'il y a de la discipline d'Église qui doit être faite, c'est un sujet de tristesse et certainement pas de joie. Et on doit aussi avoir cet amour du prochain qui est essentiel face à ça, et notamment la dernière partie tellement essentielle, une discipline d'Église par grâce. Si on oublie ça, on est complètement à côté, n'est-ce pas? Alors, vous me direz, oui, bon, dis donc, Steven, tu nous parles de grâce, mais c'est pas forcément ce que t'as parlé depuis le début de ton message. Si on lit la fin de notre chapitre, vous savez, cette fameuse phrase, « Chassez les méchants du milieu de vous ». Alors, si vous avez une Bible second 21, comme la traduction que je viens de lire, ils vous diront que c'est un parallèle avec un Deutéronome 13, verset 6. On va retrouver cette même phrase. Si vous avez une traduction sommaire, ils vont vous dire « Ah non, c'est une parallèle avec Deutéronome 17, verset 6 toujours. » En fait, ils ont toutes les deux raisons. Hein. C'est un passage qui est à de nombreuses reprises cité dans le Deutéronome. C'était déjà un élément clé de la vie du peuple d'Israël que cette nécessité de chasser les méchants du milieu du peuple, de l'extraire. Sauf qu'à l'époque, extraire le méchant du milieu du peuple, c'était pas juste « il va au village à côté hein. ». La condamnation pour cette personne, c'était la mort. Aujourd'hui, on est sous les temps de la grâce. Le fait d'exclure une personne de l'assemblée, le fait de faire de la discipline d'église, on a encore toujours ce privilège d'avoir de la grâce que cette personne pourra peut-être se repentir et changer de vie. Se retrouver face à Christ et accepter ce salut parfait offert. Au-delà de cette question de grâce, et j'en arrive un peu plus à cette deuxième chose que je voulais aussi vous parler ce matin. On l'a dit, c'est une personne qui vit dans l'immoralité sexuelle, ou qui est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. C'est quelqu'un qui va vraiment, allez, je vais prendre l'exemple du voleur, aller cambrioler son voisin toutes les nuits, d'accord, pour aller prendre sa télé. C'est ce type de personne qui clairement vit à l'opposé de ce que Dieu nous invite à vivre. C'est dans le sens fort des mots qu'on doit le comprendre. Mais dans un sens plus faible, si on regarde cette liste, en fait, on se rendra compte que on est tous impacté par cette liste. Moi, je pense aux voleurs toujours. Hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, un marchand de bonbons en libre service comme ça, passait à côté et puis. Je pense aussi à cette vidéo que vous retrouvez parfois au début des DVD, où vous savez, il y a quelqu'un qui sort de son voisin justement avec une télé sous le bras, et il est marqué voler une télé, jamais. Et puis vous voyez quelqu'un avec devant la voiture de son voisin, toujours, voler une voiture, jamais. Quelqu'un qui met un DVD sous son manteau, voler une DVD, un DVD, jamais. Et puis vous avez cette phrase qui s'affiche à l'écran, le piratage, c'est du vol. Alors c'est vrai, c'est dans un sens fort encore toujours que Paul nous parle ce matin, mais dans un sens plus faible. Comme il nous en parlait tout à l'heure avec l'exemple du levain, est-ce qu'on n'est pas tous concernés par ce mal qui est au milieu de nous, qui est en chacun de nous? Et c'est pour ça que j'aimerais que on soit pas juste de ceux qui vont exclure le méchant en disant « Ah, c'est lui qui est responsable ». Oui, Dieu nous le demande, c'est une chose importante. Mais sur l'autre côté de la même pièce, sur une autre face, Dieu nous dit aussi, c'est essentiel que nous, en tant que peuple de Dieu, on enlève ce levain du milieu de nous. Qu'on soit un peuple saint comme il nous le demande. C'est vrai, la distance entre notre péché et Dieu, elle est immense. Mais Dieu nous promet aussi qu'il sera là pour nous accompagner sur ce chemin. Et c'est ce qu'il attend aussi de son Église. Qu'on soit une Église qui ne fassions pas juste exclure le méchant, mais aussi qu'on travaille nos cœurs, qu'on travaille ensemble aussi en tant qu'Église. Parce que souvent on va se dire « Ah bah c'est un travail individuel, c'est une démarche individuelle que de lutter contre son péché. » Mais Dieu nous a aussi permis d'avoir cette Église comme rempart, comme on le disait, pour pouvoir lutter ensemble face à notre péché. Et ça, c'est une grâce aussi. C'est une grâce essentielle de la part de Dieu que d'avoir permis l'Église face à cela. Quand on vient dans l'Église, on vient pas retrouver tous nos amis saints, on vient aussi retrouver tous les autres pécheurs qui le savent que nous le sommes, qui savent qu'on a des luttes, qui savent que on a volé, qui savent que il y avait cette phrase aussi, toujours désirer de posséder plus. Ah, celui-là, je suis sûr qu'on est nombreux à lutter face à ce péché-là. À quel point c'est compliqué, mais à quel point c'est aussi une grâce d'avoir l'Église pour confesser le péché les uns les autres, pour se porter les péchés les uns les autres. Est-ce que c'est pas l'Église que Dieu voudrait qu'on puisse avoir cette occasion de pouvoir aller voir un frère, une sœur, et lui dire, écoute, est-ce qu'on pourrait prendre un petit temps de discuter parce que, tu sais, le mariage au début, c'était bien, c'était chouette, mais je me rends compte au fur et à mesure que quand j'étais célibataire, il y a plein de choses que je faisais. Je le remarquais pas, en fait, mais c'était vraiment égoïste. Et là, maintenant que j'ai une femme qui me fait remarquer, je remarque tous ces péchés qui sont encore dans mon cœur et qui ont besoin d'être changés. Est-ce qu'on peut prendre ce temps ensemble de prier? Est-ce qu'on peut en discuter avec toi? Alors c'est une grâce d'avoir une église, c'est aussi une grâce pour ceux qui ont un conjoint ou une conjointe qui est chrétienne de pouvoir avoir aussi cette occasion de discuter ensemble. On imagine un mari qui rentre du travail, qui va voir sa femme qui lui dit « Écoute, chérie, tu sais cette collègue-là qui est nouvelle dans le service depuis 2-3 semaines là. Alors tu sais, je m'entends toujours bien avec tout le monde, mais là j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de plus et je voudrais qu'on puisse en discuter pour éviter qu'il y ait du péché, qu'il y ait du mal encore. » Qui est du levain qui se répand en moi. C'est aussi ça l'Église, c'est le privilège de pouvoir se soutenir ensemble, de pouvoir grandir ensemble. Dieu, on le sait, et je vais le répéter encore une fois parce que c'est vraiment essentiel. À partir du moment où on a accepté Christ dans notre vie, on le sait, on sera racheté, on sera pardonné, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a rien à rajouter, c'est essentiel. Et ça, il faut le dire, il faut, quand on évangélise, c'est sûr, c'est la première chose à dire. C'est number one. Il n'y a rien besoin de faire pour gagner le salut offert en Jésus-Christ. Mais il y a une chose numéro deux qui arrive ensuite. Et je dis bien qu'elle arrive ensuite, parce qu'elle n'est pas secondaire. C'est pas parce qu'elle est en numéro deux que il faut complètement l'oublier et la mettre de côté. C'est que Dieu nous invite à être le peuple saint, à célébrer la fête non avec le levain de la méchanceté et du mal, mais avec celui de la pureté et de la vérité. Alors qu'on puisse encore avoir cette grâce en tant qu'Église de pouvoir nous porter face à ce péché qui est encore en nous. Petit devoir, ah non, pas devoir, ça c'est la déformation professionnelle, pardon, métier de prof. Petit défi pour la semaine prochaine, 3 défis. Je vous laisse, vous faites celui que vous voulez, enfin, selon votre cœur. Premier défi, si vous avez déjà une personne de confiance dans l'Église où vous savez que vous pouvez aller parler avec elle, cette semaine, allez la voir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose sur le cœur en ce moment, un péché, pas forcément un grand péché énorme, hein, mais quelque chose qui lutte en ce moment. Allez la voir, allez confesser, profitez encore de cette grâce d'avoir l'Église, d'avoir des personnes de confiance avec qui on peut grandir et partager. Si vous n'avez pas de personne, parce que voilà, vous êtes un peu timide ou vous n'êtes pas forcément là depuis longtemps dans l'Église, n'allez pas forcément partager un péché, mais juste allez voir une personne. Là, il y a plein de personnes qui sont au courant maintenant. Vous pouvez aller voir plein de monde et dites-lui, écoute, si jamais, est-ce que je peux t'avoir comme soutien dans ma vie face à mes luttes, face à mon péché. Juste ça. C'est déjà formidable. Et troisième défi, si vous avez une personne de confiance, mais vous n'avez pas de péché à confesser. Si c'est une personne de confiance qui vous connaît bien, allez la voir. Et je suis sûr, elle saura vous dire qu'est-ce qui a besoin d'être encore transformé, changé dans votre vie. Parce que c'est aussi une grâce de pouvoir parfois dire aux uns et aux autres, écoute là, voilà, ça mériterait peut-être encore de travailler, parce que ô combien parfois on ne voit pas notre propre péché.